Bonjour à tous et bienvenue, on est lundi.
Oui.
Il est un petit peu plus tard que d'habitude, on est lundi après-midi, d'habitude on enregistre ça le dimanche. Mais on était en vacances.
Ouais.
Hein, parce que ça suffit, là les jeux vidéo, ça va 5 minutes, mais ça suffit. Salut Aza, ça va?
Ça va.
Est-ce que tu es bien reposé de tes vacances?
Pas du tout.
Très bien, parfait, c'est les vacances. C'est un peu, on a tendance à faire toujours des vacances un petit peu épuisantes. On n'est pas du genre à se poser sur une plage et à dormir. Donc on est généralement plus fatigué quand on revient qu'avant de partir, mais c'est pas grave.
Là, non, on a fait un week-end sympa. Donc
ouais, c'était sympa, on a vu des copains, ça fait plaisir. Et on est de retour, prêt à attaquer l'actualité des jeux vidéo. Il s'est passé plein de choses pendant qu'on n'était pas là.
Quoi ?
Nintendo a eu l'outrecuidance de faire un Nintendo Direct en notre absence.
Ouais, franchement...
J'ai appelé Mario.
T'as appelé Mario ou Chris ?
C'est Chris Pratt qui a répondu, j'ai pas compris. Level Gamer épisode numéro 201. Nous sommes le lundi 27 septembre 2021. On est bientôt débarrassé de ce foutu mois de septembre. Non, j'aime bien septembre. Je préfère octobre.
Octobre, moi, j'aimerais bien septembre quand on aura déménagé.
Non, septembre... Septembre, c'est très bien. Merci à tous de nous suivre cette semaine encore. Merci à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et pour ceux qui nous cherchent, on est sur Twitter, on est également sur Facebook et on est sur Instagram. On poste des conneries de temps en temps. On est sur Discord avec un serveur plein de gens. Il y a des nouveaux sur Discord et tout. C'est trop bien, ça fait plaisir. Donc venez nous rejoindre sur Discord.
Il y a plein d'aventures sur Discord en général.
Ouais, il se passe des trucs bizarres. Et... C'est mystère, voilà. Il va falloir venir pour savoir ce que c'est. Venir sur Discord, il faut une invitation, hein, parce que ça rigole pas, Discord, c'est sur invitation. Mais fort heureusement, l'invitation se trouve dans les notes de cet épisode. Il y a un gros lien à la fin avec qui répertorie tous les liens utiles, hein, des réseaux sociaux, de Discord, de machin, et de Patreon. Hein,
Patreon.
Notre plateforme
de financement participatif.
Voilà, de soutien participatif. Si vous souhaitez soutenir ce podcast avec du vrai soutien, c'est-à-dire avec des sous,
avec du vrai
de l'argent, avec des pièces d'or et avec des. On prend pas les bitcoins. Mais voilà, allez sur la page Patreon du podcast, patreon.com/labelgamer. Si vous avez 1 ou 2 euros de trop, on les prend, il n'y a pas de problème. Aza, on va attaquer cet épisode, hein, on va rentrer dans le vif du sujet. on va parler des jeux vidéo auxquels on a joué cette semaine. On se répète, on était en vacances, hein, loin de presque tout jeu vidéo. Donc on n'a pas joué à plein de trucs.
On s'est connecté à Genshin Impact pour récupérer des trucs.
Voilà.
On a fait le minimum.
On avait une tablette avec Genshin Impact installée pour faire quelques quêtes quotidiennes là pour pas gâcher quoi. Mais sinon les vrais jeux vidéo on a laissé un petit peu de côté. On a quand même un petit peu testé quelques trucs. Hein. On a fait le début.
Oui.
On a fait le début de 3 jeux très prometteurs, tous les 3. Et on va quand même vous en parler un petit
trois
peu.
3 jeux ?
3 jeux.
J'ai oublié.
Oui,
ça s'étonne pas.
C'est pour ça qu'on fait ce podcast à deux, quand il y en a un qui oublie, il y a l'autre qui rattrape. On va commencer par le premier, on va commencer par Lost Judgment.
Oui, ça je m'en rappelle.
Lost Judgment, qui est la suite directe de Judgment, le spin-off de Yakuza, qui était sorti en 2010. 7, 8, 9.
Je sais pas.
Il y a quelques années. Donc, Judgment, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est le même studio qui fait Yakuza. Hein. C'est le studio Ryuga Gotoku, hein, des Japonais. Et c'est très proche de Yakuza. C'est une histoire qui se passe dans les mêmes lieux que Yakuza. Mmh. Parce qu'un des secrets de ce studio pour sortir des jeux aussi souvent, c'est de réutiliser pas mal de choses qu'ils développent d'un jeu à l'autre.
Oui.
Là, en particulier, le dernier Yakuza qui est sorti l'année dernière, Yakuza 7 Like a Dragon, nous amenait dans une nouvelle ville, à Yokohama, dans le quartier de Ijincho, quartier imaginaire de Ijincho, mais qui ressemble beaucoup au vrai Yokohama. Et donc ce nouveau quartier qui avait été développé exprès pour Yakuza 7, et ben pour pas gâcher, le voilà dans Lost Judgment. Et une grosse partie de Lost Judgment se passe dans ce quartier de Yokohama, le même que Yakuza 7. Alors, mais ça reste, Judgment reste comme dans comme le premier, ça reste un spin-off, ça reste une histoire complètement séparée. Si vous avez toujours eu un petit peu peur de vous attaquer à la série Yakuza qui est un petit peu intimidante, on est d'accord, il y a beaucoup de jeux, ça a l'air un petit peu imperméable. Vous pouvez très bien vous lancer dans Judgment et dans Lost Judgment, c'est des personnages différents, c'est ça se passe simplement au même endroit, mais il y a
aucune connexion avec l'histoire de Yakuza, quoi.
Même pas trop d'allusions, tu vois.
Ah non,
Alors oui, quand tu vas avoir des rencontres avec le milieu du crime organisé, que ça soit
c'est pas Kiryu qui débarque, hein.
Non, mais je veux dire, non, voilà, c'est pas les mêmes personnages, mais la famille de Yakuza s'appelle pareil, donc voilà.
Oui, bon, hein,
tu vas reconnaître quelques clins d'œil. Il y a le tout reste cohérent, je veux dire, les boutiques sont au même endroit.
Bien sûr.
C'est les mêmes endroits, mais une histoire complètement 100% indépendante et vous serez pas perdu. Alors pour Lost Judgment, c'est la suite de Judgment, ça se passe quelques années plus tard. Mm-hmm. On est toujours dans la peau de Yagami
Takayuki,
ancien avocat reconverti détective privé. Et donc on va le suivre dans ses petites enquêtes de son petite agence de détective. Mm-hmm. Alors on peut pas trop vous parler de l'histoire de Lost Judgment parce que comme dit on a fait l'intro, hein, on a fait les quelques premières heures, mais c'est même pas vrai, on a fait les quelques premières minutes.
Oh, on a fait 2 heures au moins.
Oui, voilà, c'est ça.
Mais oui, on a fait une première petite enquête d'intro.
Première enquête d'intro qui est un gros tuto pour rappeler un petit peu les bases du jeu et les différences avec Yakuza. Et donc l'ambiance est toujours aussi sympa, toujours aussi réussie. Ça reste comme Yakuza, ça reste un jeu qui a un petit peu deux tons en parallèle, c'est-à-dire que l'histoire principale est généralement assez sérieuse, même assez dark. Hein. Et après, il y a beaucoup de choses autour des activités annexes et des trucs comme ça qui sont un petit peu plus légers et un petit peu plus rigolos, voire beaucoup plus n'importe quoi.
Absurde.
Beaucoup plus absurde, beaucoup plus n'importe quoi, donc c'est très sympa.
Non, mais là, on a quand même vu les nouveautés de gameplay par rapport à Judgment.
Voilà, c'est ça, il te les met tout de suite dans la gueule. Il y a des choses qui reviennent, hein, les filatures, ce genre de choses.
Oui, mais les filatures, c'est un petit peu différent.
Les filatures sont un petit peu différentes. Les courses-poursuites dans la rue, si tu dois courir après un suspect qui s'enfuit. Voilà, ils ont rajouté des petits mécanismes pour pimenter un peu tout ça. Il y a des trucs complètement en plus, comme le parcours.
Le parcours, ouais, voilà.
Parcours, Yagami, visiblement, il a fait de l'exercice pendant ces quelques années. Il est beaucoup plus, il est beaucoup plus dégourdi.
Il a fait un stage à la Guilde des Assassins.
Exactement, il va escalader les façades d'immeubles et sauter de bâtiment en bâtiment pour passer par la fenêtre et s'introduire dans des lieux auxquels il n'est pas forcément convié.
Ouais, c'est ça.
Donc ça c'est tout nouveau. Non, il y a des nouveautés, il y a des trucs en plus, mais on garde les mêmes bases, c'est le même style de jeu, c'est les mêmes personnages et ça a l'air sympa, quoi.
Ouais, et du coup donc là c'est maintenant la série de jeux de ce studio qui est joué en
ouais qui est jeu
en,
d'action
en combat d'action.
Voilà.
Contrairement à Yakuza qui est passé en...
C'est ça, Yakuza avec Like a Dragon, Yakuza a fait un revirement. Traditionnellement, Yakuza, c'est des combats très orientés action, où ça se tatane. Mais après, là, avec Like a Dragon, en fait, ils sont passés sur un tour par tour. Mm-hmm. C'est la même ambiance de combat, c'est les mêmes coups un petit peu...
Oui, les coups
c'est
sont...
C'est over the top, c'est vraiment...
Se ressemble,
c'est
mais
très, très fun,
c'est tour par tour.
Mais c'est tour par tour, hein, à la tradition des jeux de rôle japonais de la grande époque. Ouais. L'inspiration de Dragon Quest est évidente et même intégrée dans le scénario. Ouais. Donc, et ils ont annoncé que Yakuza, à partir de maintenant, Yakuza sera une série avec des combats en tour par tour qui va garder ce truc-là. Mais si tu aimes les combats, la baston rapide, avec les combos, les trucs comme ça, vraiment à l'ancienne,
comme Judgment, les anciens Yakuza,
Judgment reste
ça,
sur ce modèle, et donc Judgment 2, enfin donc Lost Judgment est sur cet ancien modèle. Ouais, et c'est très bien aussi, ça permet d'avoir de la variété, tu vois.
Ah oui, non, c'est mieux d'avoir gardé quand même de l'action, parce que non, c'est sympa, voilà. de retrouver de l'action.
J'ai adoré le tour par tour, ça donne une profondeur au combat qui était vraiment sympa, et je suis content qu'il reste là-dessus pour Yakuza.
C'est bien d'avoir les deux.
Mais c'est bien d'avoir les deux, ouais, c'est bien d'avoir les deux. Voilà, on retrouve les personnages qu'on connaissait du premier. Hein. Alors au début, il te montre Keito. Voilà, ouais. Il te montre aussi l'ancien cabinet d'avocat où tu bossais.
Oui.
Parce qu'en fait, tu bossais dans le premier, l'histoire de Takayuki, du personnage que tu joues. Dans le premier, il te la raconte. En fait, c'était un avocat même plutôt brillant. Mmh. Hein, et c'est marrant parce que quand tu le vois avocat, il est en costard, il est bien coiffé, il est tout propre.
Ah,
sur
lui. C'est pas le même, ouais.
C'est pas le même. et en fait, il a défendu son client qui était accusé de meurtre et il l'a bien défendu puisqu'il a été relâché. Et au Japon, ça fait ce genre de choses, c'est un événement puisque quand tu vas au tribunal, 99,9% du temps, tu es jugé coupable. Hein. Je veux dire, quand tu arrives au tribunal, c'est fini.
Oui, il y a déjà un petit problème quand même. Hein, mais bon.
Exactement, il y a déjà un problème. Donc voilà, c'est extrêmement rare que quelqu'un se fasse innocenter au tribunal. C'est vrai, au Japon, c'est comme ça que ça se passe. Mmh. Et c'est le genre de stats qui te ressortent dans le jugement, mais qui te ressortent aussi dans Phoenix Wright. C'est rare que le suspect soit innocenté. Mm. Mais là, Takayuki, brillant avocat, réussit à innocenter son client. Et manque de peau, quelques jours après, nouveau meurtre, et son client est de nouveau le premier suspect. Mm. Et là c'est encore plus clair que la première fois, je veux dire. C'est presque. Tu le retrouves avec.
Avec l'arme à la main,
Avec l'arme à la main, c'est. Il y a eu un incendie, le bidon d'essence, il y a eu un incendie, bref.
Il y a eu un incendie et je crois que c'était sa copine qui a été poignardée, je crois.
Ouais, bah voilà, c'est ça.
Et lui, il avait le couteau à la main ou quelque chose comme ça. Donc, c'était vraiment...
Donc du coup, voilà, c'est le déshonneur. Et du coup, il quitte le cabinet d'avocat et se reconvertit en détective. Donc ça, c'était l'histoire du premier.
Oui, mais l'histoire du premier est aussi liée à cette histoire.
Voilà, c'est quelque chose qui va ressortir, mais on va pas spoiler le premier. Mais en tout cas, c'est des super jeux. Le premier nous avait beaucoup plu. Mm. Et le 2 part très très fort. On en reparlera sans doute la semaine prochaine, hein, quand on aura un petit peu plus d'heures. Ouais. Je suis un petit peu curieux de voir comment ils introduisent la suite, comment ils introduisent donc cette nouvelle ville où tu vas aller.
Il y a un chat, apparemment.
Il y a des chats, il y a des chiens, il y a des...
Non, mais il y a un chat qui est... Ben, en fait, quand tu lances le jeu, sur l'écran d'accueil, il y a Yagami avec un chat qui sont sous la pluie, quoi. Voilà. Donc, je pense que maintenant, il a un chat, quoi.
Voilà, c'est l'écran de titre, c'est Yagami et son chat, donc c'est autre jeu... Autre jeu qu'on a testé un petit peu cette semaine, autre nouveauté, c'est Kena.
Ah oui.
Kena, Bridge of Spirits.
Ah oui, je me rappelle.
Ça y est, tu t'en rappelles.
Ça y est. Mais on l'avait fait en début de semaine aussi. Il s'est passé tellement de choses.
Ouais, je reconnais que c'était une semaine mouvementée. Mais on a testé Kena, là, qui est sorti en début de semaine sur... Alors, Kena est sorti sur PlayStation 4, sur PlayStation 5 et également sur PC. Il n'y a pas de version Xbox pour l'instant de prévu. C'est intéressant comme jeu, c'est très sympa. C'est très sympa, c'est fait par un... Alors, l'histoire du studio est assez marrante, c'est un studio qui s'appelle Humber Lab. C'est leur premier jeu vidéo, mais c'est un studio qui existe depuis longtemps, puisque c'est des gens qui, habituellement, filent un coup de main dans le milieu du cinéma d'animation. À Hollywood, hein. Et donc ça, c'est quelque chose qui se voit beaucoup dans Kena.
Oui, c'est un jeu d'animation.
C'est un jeu d'animation, c'est extrêmement beau.
Oui.
Hein, on est dans une ambiance d'une forêt un petit peu mystique. On joue Kena, hein, qui est donc. Elle a le pouvoir de parler aux esprits et d'aider les esprits qui ont du mal à passer dans l'autre monde. Elle est guidée un petit peu. Donc, tu es dans cette forêt enchantée. C'est super beau. Il y a des beaux effets de lumière. Il y a des beaux effets de météo. C'est magnifique. Et c'est très très bien animé. C'est très très bien animé. Hein, les expressions faciales de Kena, des autres personnages, comment ils se déplacent, comment ils vont être, comment ils vont bouger. Mais ça rappelle. C'est bien animé, mais c'est des mouvements très exagérés.
Ça fait dessin animé, quoi.
Ça fait très dessin animé, exactement. Ouais. Ça fait très cinéma d'animation et dessin animé pour de ce genre-là. Mais c'est cool. Après, le jeu en lui-même.
Ouais, là par contre, moi je comprends pas.
Ça t'a pas plu ?
Non, ça n'a pas d'intérêt.
Le jeu est très simple. Le jeu est extrêmement simple. J'ai vu souvent la comparaison sur Internet et c'est finalement très très vrai. C'est un jeu PS2 avec des graphismes pour PS5.
Voilà, c'est ça.
Donc c'est vraiment le.
C'est magnifique.
C'est magnifique, mais c'est de la plateforme action 3D comme on en faisait il y a 20 ans. Et pour le meilleur et pour le pire, tu vois, c'est un style de jeu qui était très populaire à l'époque. C'est des combats très très simples. Hein. Tu esquives, t'as les ennemis qui t'attaquent, tu peux les esquiver, tu as une attaque légère, une attaque lourde. Mmh. Tu peux utiliser un petit peu tes compagnons, en fait.
Oui, t'as des espèces de Pikmin. Hein.
Les espèces de Pikmin, comment ils s'appellent? Les Ro.
Les Ro, oui.
Les Ro.
Ils s'appellent les Ro.
Les Ro. C'est... Ou les Rot. Bref, je sais pas comment t'es censé prononcer ça, mais les Ro. c'est des espèces de Pikmin que tu vas collectionner, en fait. À chaque fois que tu fouilles un petit peu le décor, tu vas en trouver de temps en temps. Et une fois qu'ils te rejoignent, bah, tu augmentes ton total de Ro. Et ils vont te servir à plein de trucs, à résoudre des puzzles, et ils vont te servir en combat. Par exemple, si tu veux occuper un ennemi pendant que tu t'occupes d'un autre, tu balances tes héros dessus, ils vont l'énerver, ils vont le mettre. Donc c'est intéressant. Pour résoudre des puzzles, bah, c'est assez simple. Par exemple, si tu as une caisse un petit peu trop lourde pour toi à transporter d'un endroit à l'autre pour t'en servir d'appui, eh ben, tu envoies tes rots dessus, ils vont la soulever, ils vont la transporter là où tu veux. Alors là aussi, c'est plein de petites animations, ils sont trop mignons,
mignon,
les petits rots,
voilà,
ils sont super mignons. Tu vois, quand ils vont porter la caisse, il y en a un qui va guider les autres, qui va faire des grands gestes et tout. C'est très rigolo, c'est très beau à voir bouger, c'est très bien éclairé, c'est tout ce que tu veux. Mais c'est simple, voilà, c'est la caisse, on la prend à un endroit et on l'emmène à l'autre, et puis on peut grimper dessus.
Ouais, et ça, c'est le plus dur que tu as fait dans tout le jeu, quoi.
Voilà,
donc,
c'est ça.
En fait,
les niveaux sont très linéaires.
Comme tu dis, c'est vraiment un studio d'animation qui a fait un jeu vidéo, quoi.
Ouais, c'est ça.
Au niveau gameplay, c'est absolument pas poussé comme il faudrait pour un jeu vidéo de maintenant, quoi. Hein, tout simplement. Hein.
Voilà, après.
C'est très beau. On va dire, je pense que c'est un jeu où tu peux vraiment te mettre dans l'univers et aller faire des trucs et tu vois, et te sortir la tête de ton quotidien, etc. Mais après, au niveau challenge, c'est zéro, quoi, hein, pour le coup.
Ouais, bon, après, t'as plusieurs niveaux de difficulté. Si tu veux des combats un petit peu plus complexes, mais tu peux monter le niveau de difficulté,
oui.
Mais ça change pas vraiment grand-chose à la profondeur du jeu, tu vois.
C'est ça.
Bon, c'est un jeu à 40 euros, c'est pas un jeu qui est plein tarif. Mm-hmm. Je crois qu'il fait environ une dizaine d'heures.
Oui.
Il est très linéaire. Hein. Tu as un village central qui sert de hub un petit peu, et tu pars un peu dans toutes les directions en fonction de l'étape du jeu dans laquelle tu es. Et voilà, l'histoire est mignonne. Mais c'est sympa.
Ça manque de profondeur. Mais voilà,
c'est agréable à jouer. C'est agréable à jouer parce que c'est très joli et c'est pas. Et le personnage répond bien, ça bouge bien. C'est vraiment pas méchant, mais c'est assez inoffensif, tu vois. Je pense que je vais continuer à y jouer. Mais une fois arrivé à la fin du jeu, voilà, t'as eu une bonne expérience, mais c'est pas le jeu que tu vas ressortir dans 5 ans en disant « Ah, tu te rappelles Kena ?» Ouais.
Non, il n'y a pas de... C'est un dessin animé. Pour moi, c'est littéralement un dessin animé interactif, quoi.
Ouais, c'est un peu ça.
Voilà, c'est ça.
Alors, t'as des trucs à collectionner, t'as des trucs à trouver. Tu as un système de... Je crois que c'est des lettres qu'il faut ramener dans les boîtes aux lettres ou dans les trucs qui vont bien pour débloquer des endroits secrets et trouver des coffres et...
Oui, mais tout ça est simplissime, en fait.
C'est
donc,
simplissime.
Tous ces systèmes sont simplissimes,
voilà, ouais.
Et on les a vus et revus.
Il n'y a pas d'originalité.
Et développés beaucoup mieux dans d'autres jeux, quoi.
Il n'y a pas d'originalité.
Ouais.
Il y a un arbre de talent qui est assez simple.
Voilà,
tu peux améliorer tes compétences. C'est rien d'original,
non.
Mais c'est très joli, c'est bien exécuté, ça passe bien, quoi. Mm. Donc voilà, assez cool, Kena Bridge of Spirits. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le troisième jeu qu'on a également testé le début, mais pas suffisamment pour vraiment parler en profondeur, c'est Eastward.
Ah non, là je l'ai pas vu, moi.
Toi, Eastward. T'as dormi, toi.
Mais comment ça, j'ai dormi? T'as lancé Eastward?
Oui. Et tu étais à côté.
Mais non, j'étais pas à côté. Bon, c'est pas grave.
On aura une discussion avec Aza. Voilà.
T'as lancé Eastward ?
Alors, Eastward, c'est un jeu. Je crois, lui, il est à.
Ah non, mais je pense que t'as lancé Eastward et que ça m'a tellement instantanément saoulé que j'en avais rien à foutre.
C'est pas ton style de jeu, mais ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu. Au contraire, ça a l'air vraiment, vraiment sympa. Comme,
C'est personnel. Hein.
Là, on part vraiment sur une production indépendante. Ça coûte 25 euros sur Steam ou sur Switch. Et ça, par contre, c'est. Autant qu'Ena, c'était un petit peu un hommage à ces jeux d'action de l'époque de la PlayStation 2, autant Histoire, là, c'est vraiment les jeux de rôle aventure de l'époque de la Super Nintendo. Donc on a ce style de graphisme qui rappelle vraiment la Super Nintendo, des jeux comme Earthbound, des jeux de. Voilà, les premiers jeux de rôle, jeux d'aventure qu'il y avait à l'époque. Mmh. Donc l'ambiance est sympa, les graphismes, c'est assez bien animé. On est, comme dit, c'est du faux 16 bits. Mais voilà, il y a une animation, il y a le texte, le jeu est très bien écrit. C'est rigolo, l'ambiance est un petit peu bizarre, je comprends pas
ah,
tout
oui,
à l'histoire.
Ça y est, je me rappelle, c'est le truc dans les mines.
Ouais, ah bah voilà, ça
oh,
y est.
Oh, mais dis-moi le truc dans les mines.
Écoute, je sais jamais quel mot-clé va te déclencher.
C'est ça.
Mais effectivement, on
mais
est.
Mais oui, attends, moi ça me faisait penser à Spelunky parce qu'il y avait cet aspect un peu souterrain, tout ça.
Ouais, ouais.
Mais bon.
Ouais, ouais, c'est ça. Mais non, le jeu débute dans une mine. Tu joues un mineur d'ailleurs, de John, qui vit visiblement avec une petite fille mystérieuse. Je pense pas que ce soit sa fille, mais voilà, ça c'est encore des mystères du jeu.
C'est bizarre.
Ouais, ils ont une relation un peu bizarre, mais voilà. Donc tu es John, tu es un mineur, tu vas travailler à la mine. À la mine, tout de suite, il y a des problèmes de limaces électriques bizarres. Donc tu vas te battre contre les limaces à coups de pelle. Donc voilà, c'est des combats qui rappellent beaucoup Zelda à l'époque de la Super Nintendo. C'est des combats, c'est vu de dessus en 2D, en temps réel. Et voilà, donc c'est dans cette mine, dans ce village minier souterrain, il y a plein de personnages.
C'est pas juste une mine où tu descends en fait. C'est
une colonie, une société souterraine.
Souterraine.
Ouais, ouais, complètement.
Un village souterrain.
Et qui ont l'air de vivre dans des ruines d'une société qui passait. Donc il y a un univers.
Oui, oui, non. Ça, il y a un univers qui est assez particulier.
Ouais. Mais qui est intriguant, qui est sympa.
Mais qui est intriguant. Non, c'est vrai. C'est vrai, pour le coup, tu vois, maintenant que je me rappelle, il y a quand même des aspects qui sont...
Ouais, ça y est, ça te revient.
Ouais. Non, il y a cette ville souterraine avec des enfants qui vont à l'école, le maire, le machin, et c'est trop bizarre.
Le maire qui est tout pourri, voilà. Non,
ouais, mais la ville, elle est toute pourrie aussi.
C'est des clochards.
C'est clodo, quoi.
C'est vraiment... Tu sens que tu es dans
une
espèce d'ambiance post-apo où les gens vont essayer de survivre dans ce truc-là.
C'est ça.
En tout cas, c'est très cool, c'est intriguant, c'est un style de jeu que j'aime bien. C'est pas facile de les réussir, ces jeux-là, bizarrement.
Il faut un bon univers, ouais, donc à voir. Hein.
Ouais, ouais. Il y a une intro animée qui laisse présager une histoire assez complexe. Il va se passer des choses. Comme dit, on en est au début. Hein, on n'a pas eu suffisamment de temps de jouer. On y a joué sur PC. Si c'est vrai que j'ai pas calculé, si on aurait peut-être pu prendre la version Switch et on l'aurait emmené en vacances.
En vacances on avait autre chose à faire de toute façon.
Et de toute façon,
fallait compter les vaches.
J'ai pas fait les remerciements de cet épisode. On remercie l'éditeur pour Histoire qui nous a envoyé une version du jeu. On remercie également l'éditeur pour Lost Judgment. On a également reçu une version. Pas merci pour Kena parce qu'on l'a acheté. En live, attention les scoops, hein, en live, je profite des remerciements. Merci à le Gamer Addict hein, pour sa contribution sur Patreon qui est arrivé en live pendant qu'on enregistrait. Merci le Gamer Addict,
merci beaucoup.
Les contributions Patreon nous permettent de survivre en ces temps difficiles.
De survivre.
Ah, sans ça, on serait mort. Hein, patreon.com/abel et gamer pour nous sauver la vie. T'allais dire quelque chose, Aza ?
Oui, c'est certainement une connerie, mais...
Certainement, mais vas-y, c'est la base de ce podcast. Hein.
Non, j'allais dire que justement, maintenant que je me suis rappelé ce que c'était Histoire, en fait, c'est un jeu qui, même si c'est pas mon style de jeu, ça m'attire plus de continuer ce jeu pour voir l'évolution de l'histoire, plutôt que Kena, qui est juste beau et qui a rien derrière, quoi. Voilà.
Kenna, il n'y a pas d'histoire, tu vois.
Y a pas d'histoire.
Enfin, si, il y a une histoire, mais c'est pas une histoire où tu es. Tu agrippes les accoudoirs de ton canapé pour qu'est-ce qui va se passer, quoi.
Bon, l'histoire non plus, mais faut pas exagérer.
Un peu plus, parce qu'il y a cet univers qui est vraiment intriguant, qui est marrant. Donc, Kenna, c'est oui, il faut que j'aille au sanctuaire. Je fais, bah, vas-y, bonne chance, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise.
Oui, Kenna, c'est il faut que je trouve des fruits. Mais vas-y, trouve des fruits et que tu m'emmerdes.
Va au sanctuaire, on se rappelle quand t'es là-bas. Mais tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment. Alors, c'est joli, mais il n'y a pas vraiment de.
Pas de profondeur.
Mais non, c'est. Kenna, c'est... Je reprends, on a des gens qui nous écoutent en live là sur l'enregistrement. Shinsuki nous écoute en live. Salut, coucou Shinsuki, qui dit Kenna, c'est magnifique, je pleure. Je fais oui, Kenna, c'est magnifique.
Il n'y a rien à
c'est
faire.
Juste magnifique.
Ouais, voilà.
C'est juste magnifique. C'est, ouais. Écoute, c'est pas grave, mais c'est pas un mauvais jeu, hein, mais c'est pas. Ça, c'est voilà. Pas la révolution, quoi.
Oh non.
Aza, on va passer à l'actu. Il s'est passé plein de choses, figure-toi. Nintendo. Donc, alors on a plein d'actu cette semaine. On va parler de Nintendo, on va parler de tous nos sujets préférés, hein, là, ça. On va parler Nintendo, on va parler Quantic Dream, on va parler Blizzard, on va parler. Il y a pas
CD Projekt.
Ouais, pas de CD Projekt cette semaine. Je suis désolé. Nintendo, c'est coquin. On fait un Nintendo
Direct.
Ils
sont coquins, ouais.
C'est des coquins.
Ils sont très très coquins en ce moment.
Ils ont fait un Nintendo Direct pour annoncer plein de nouveautés. Je rigole, ils avaient quasiment rien, mais. Non, il y a des trucs. Alors, on va faire un petit peu la liste de ce qu'on a retenu dans l'ordre de leur présentation, hein, parce que comme ça, pas de jaloux. Alors, le plus gros truc qu'ils ont annoncé, c'est une grosse extension pour Monster Hunter Rise. Oui. Alors, c'est pas de surprise, hein, je veux dire, les Monster Hunter se retrouvent toujours avec une grosse extension derrière. Hein, c'est un petit peu la tradition de Monster Hunter. Et là c'est pareil, c'est prévu pour l'été prochain en 2022 avec des nouvelles mécaniques de gameplay, des nouveaux monstres, des nouveaux lieux, des nouvelles quêtes, des nouveaux rangs de quêtes, ça s'appelle Sunbreak. L'ambiance a l'air un petit peu creepy, hein, le trailer avait l'air assez sympa.
Creepy.
Non mais pas, je veux dire c'était...
Un peu plus dark
que ce que Monster Hunter fait parfois. Après maintenant je suis habitué à Monster Hunter Stories, qui est plus léger. Donc,
oui, voilà, c'est ça.
Tu me remets du Monster Hunter Rise, c'est tout de suite un petit peu plus...
Ah oui, tout de suite, c'est beaucoup plus choquant pour toi, ouais.
Ouais, beaucoup plus choquant pour moi. Donc voilà, les fans de Monster Hunter, préparez-vous l'été prochain à retourner hunter des monstres.
Massacrer des animaux.
Les pauvres. En parlant de massacre d'animaux, Animal Crossing New Horizon. Alors ça... Dans le genre fausse annonce. merci Nintendo.
Mais attends, ils en ont fait plusieurs comme ça. Ouais, on va sortir un truc, mais on vous le dit dans 3 jours.
Ouais, donc merci pour rien, Nintendo. Animal Crossing New Horizon va sans doute avoir du nouveau contenu, mais ils te disent pas quoi. C'est visiblement le. C'est comme s'ils avaient. Je sais pas, ils se sont décidés à développer du nouveau contenu là cette semaine. Non, c'est le retour de Brewster, en français je crois qu'il s'appelle Robusto, le pigeon qui tient le café là.
C'est un pigeon qui tient le café.
C'est un pigeon qui tient le café, absolument.
Et les pigeons, c'est des putains de rats volants, c'est ça qui te fait le café ?
Ouais, c'est le principe. Donc
vous noterez
le pigeon,
qu'on habite à Marseille. Hein.
Il va ouvrir son café dans le hall d'entrée du musée. Visiblement, ouais. Hein, il va ouvrir son café, ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, hein, c'est marqué dessus. Et donc tu vas pouvoir aller prendre du café. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? On ne sait pas, hein, Nintendo a dit que Robusto et son café arriveront sans doute au mois de novembre, avec plus d'informations sur ce que ça va impliquer au mois d'octobre. Hein. Le pigeon, il était déjà là dans les précédents Animal Crossing. Maintenant, c'est difficile d'extrapoler sur ce qu'il va faire dans New Horizon. La même chose, je pense pas, puisque Brewster, donc Robusto, tu pouvais stocker tes gyroïdes, ta collection de gyroïdes chez lui.
Quoi des gyroïdes ?
Ben voilà, c'est ça. Dans New Horizon, il n'y a pas de gyroïdes, donc déjà, ça, c'est mort. Tu sais, les gyroïdes, c'est... Je sais pas si tu vois quand tu fais un. quand tu fais un projet public, genre fabriquer un pont ou des trucs comme ça,
il y a
un genre de petit cactus bizarre qui récolte les sous devant le truc. Ça, c'est un gyroïde.
Oui.
Et dans les précédents Animal Crossing, il y avait tout plein de gyroïdes que tu pouvais avoir de tout plein de façons différentes et tu pouvais les collectionner, c'était trop bien. Ça, il n'y a pas du tout dans New Horizon.
Peut-être qu'ils vont lancer ça, non ?
Peut-être qu'ils vont lancer ça, ça serait cool parce que ça serait du contenu assez, assez sympa. Mmh. Voilà, donc on reparlera de ce foutu pigeon le mois prochain. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, dans la série des pas d'annonce... Le dernier personnage de Super Smash Bros. Ultimate, là aussi, n'a pas été révélé. Par contre, il y a eu l'annonce de l'annonce, puisqu'il sera révélé le 5 octobre.
C'est ça.
Attendez-vous à un Nintendo Direct spécial Smash Bros. Pour le dernier personnage. C'est donc le 5 octobre. Il vous reste un petit peu plus d'une semaine pour faire vos pronostics. Voilà, qui ça va être
Je sais pas.
Probablement Chris Pratt. Donc voilà, pas d'infos là-dessus non plus. Ils nous ont montré une nouvelle bande-annonce de Mario Golf Super Rush qui est déjà sortie, hein, mais qui va avoir droit à quelques ajouts, un patch gratuit qui va rajouter des parcours, un sous la neige, un dans le sable. Et aucun des deux n'a l'air pratique pour faire du golf.
C'est ça.
Et de nouveaux personnages jouables, la tortue Koopa et Ninji, l'étoile ninja. C'est une étoile ninja, pas une étoile de ninja, c'est une étoile qui est un ninja en même temps. C'est Ninji, c'est... voilà.
J'arrive pas.
Les connaisseurs l'auront reconnu, et ceux qui ne savent pas qui est Ninji n'ont probablement pas acheté Mario Golf de toute façon. Donc, on est clair. À la fin du mois d'octobre sortira, on le savait déjà, Mario Party Superstars, qui est...
Alors ça, c'est quoi ? C'est un nouveau Mario Party ?
Non, c'est pas un nouveau Mario Party, c'est un remake sélectif. On va appeler ça comme ça.
Ah, ils ont repris des trucs bien de tous les Mario Party.
Voilà, ils ont récupéré les 5 meilleurs tableaux des Mario Party Nintendo 64, ce qui est une bonne idée parce que selon moi, la Nintendo 64, c'était un petit peu l'âge d'or des Mario Party. Mmh. Donc il y avait des tableaux vraiment sympas, ils les ont récupérés là-dedans.
Ils les ont remis
au goût du jour avec des jolis graphismes et des trucs comme ça, et ils ont fourré dedans les meilleurs mini-jeux de cette époque là et ça a l'air très sympa, avec en plus un mode online avec des modes additionnels, donc ça a l'air très cool.
Ouais,
mais c'est
combien ça coûte? Moi c'est ça que je veux savoir.
Attends, on est chez Nintendo, donc voilà. ça coûte probablement 250 €.
Voilà, c'est ça.
C'est avec des amiibo en plus à acheter pour lancer le dé.
C'est ça.
Non, je sais. On va. Alors, regarde, je vais voir.
Non, parce que ça, c'est le genre de truc où ils recyclent quelque chose qui existe déjà. Bon, ce qui est pas mal, mais quand même, mais qui vont te faire payer encore plein pot.
Exactement. Mario Party Superstar pour Nintendo Switch coûte actuellement 44,99 € chez Amazon.
Bon, ça va.
Ça va. Ça va. Tu vois, on est mauvaise langue, mais ça va. 45 € pour,
pour une
belle compil de Mario Party, c'est cool. Enfin bon, c'est le prix Amazon, hein, ça veut dire que
chez Micromania, peut-être c'est à 70.
Un rein. Disco Elysium, The Final Cut, la version console de Disco Elysium, qui était déjà sortie sur PlayStation et sans doute Xbox, mais je suis pas vraiment sûr, arrive maintenant sur Switch. Ça arrive le 12 octobre avec une interface redesignée pour que ça soit un petit peu plus fun en portable et pas mal de nouvelles améliorations, donc ça c'est cool. Les amateurs de Mario Kart, pas de Mario Kart, hein, donc...
Non, mais il y a le brosser. Truc que c'est la même chose. Là.
Chocobo GP, un Chocobo Grand Prix, va sortir sur Nintendo Switch. C'est la suite de Chocobo Racing, hein, pour ceux qui sont beaucoup trop vieux pour ce podcast. Chocobo Racing était sorti en 1999 sur... je sais pas, probablement sur Minitel, on jouait sur quoi à l'époque ?
Ah, ça va, 99.
PlayStation 1. Ouais, Chocobo Racing c'était PlayStation 1, et là donc la suite Chocobo GP arrive sur Nintendo Switch. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est Mario Kart mais avec des chocobos et des Black Mage de Final Fantasy. Voilà, je vois pas comment on peut résumer le jeu autrement parce que c'est exactement ça.
Oui. Hein, oui, c'était... tu jettes des trucs, tu l'envoies dehors, t'emmerdes tes copains.
L'idée quand c'est sorti sur PlayStation, c'était vraiment de concurrencer Mario Kart. Hein, et là on. C'est la stratégie de la Switch, hein, et on en reparlera tout à l'heure, c'est on fait venir tous les anciens concurrents sont sur Switch maintenant, donc il n'y a, a plus de problème. Un truc intriguant qu'ils ont montré à ce Nintendo Direct, un truc qui s'appelle Voice of Cards 2. The Isle Dragon Roars. Je ne parle pas très mal anglais.
Ouais.
The Isle Dragon Roars. Donc ça, c'est un jeu de cartes, un jeu de rôle basé sur des cartes, en fait. C'est très joli, c'est un style assez particulier. Tout est
cartes, mais les environnements aussi sont des cartes.
Les environnements sont des cartes, tout est des cartes, les personnages, les protagonistes sont des cartes, les ennemis sont des cartes, l'équipement c'est des cartes, les sorts c'est des cartes, les compétences c'est des cartes.
Voilà,
c'est des cartes, et tu vas te balader par terre sur les décors, et par exemple, pour explorer, en fait, t'as un genre de brouillard de guerre qui fait que toutes les cartes sont retournées, et plus tu avances, plus ça va retourner les cartes, et donc tu vas voir, bah là t'es sur un chemin, là c'est la montagne, et là c'est un ennemi, donc ça va lancer un combat qui va ressembler à du Hearthstone, mais que à base de cartes, dans un style visuel plutôt sympa. C'est vraiment un jeu de rôle basé sur des cartes. Et
c'était pas mal, ça avait l'air pas mal. Hein,
ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Il y a une démo qui est sur l'eShop, donc on va peut-être tester la démo.
On va tester, ouais.
Parce que moi, ce qui m'intrigue dans ce truc-là, c'est que tout ça, c'est le nouveau jeu de Yoko Taro, le créateur de Nier.
D'accord.
De Nier Automata, et des précédents, et qui revient là avec toute son équipe, hein, avec tous les vétérans de Nier et de Drakengard. Il y a Yosuke Saito, qui est le directeur exécutif, qui est Ishio Kabe à la musique, hein, donc les fameuses musiques de Nier Automata et de Nier en général, c'est le même mec qui va faire les musiques. Kimihiko Fujisaka pour le character design, donc c'est le même style visuel sur les personnages, sur les monstres, sur les trucs comme ça, donc c'est vraiment cette ambiance-là qui revient. Donc c'est vraiment visuellement et audio, c'est vraiment un super univers, une super ambiance, et ça a l'air original. Généralement, moi, j'en ai un petit peu marre des jeux où tu fais tes decks de cartes, des trucs comme ça, mais là, ça a l'air...
Mais je sais pas si tu fais un deck, là. Hein.
Je sais pas si tu fais un deck, je crois que c'est vraiment juste la présentation, c'est...
Oui.
Voilà, à voir. À voir. Oui, donc, Nintendo Switch, si vous voulez donner plus d'argent à Nintendo, c'est possible, rassurez-vous, puisqu'ils ont annoncé un nouveau palier premium pour Nintendo Switch Online. Je vais retrouver le nom exact du service parce que Nintendo, ils ont toujours été forts.
Nintendo Switch Online plus pack additionnel.
C'est ça. C'est le nom officiel, c'est Nintendo Switch Online plus pack additionnel. Donc c'est le nom du service.
C'est nul, hein.
Donc c'est le Nintendo Switch Online, mais plus cher. On ne sait pas de combien. Ils vont le dire bientôt. Et à quoi tu as droit pour plus cher? C'est des nouveaux jeux de. C'est des nouveaux jeux en console virtuelle. Hein. En particulier, une bibliothèque de jeux Nintendo 64. Incluant des jeux comme. Des jeux complètement incroyables comme Super Mario 64. Non, mais tu te demandais pourquoi ils l'ont retiré de la vente quand ils ont fait la compile l'année dernière? C'est pour te le revendre une deuxième fois.
Ah putain, c'est pour ça.
Quel enculé, ce Mario.
Les enfants.
Donc, des jeux Nintendo 64, hein, là, tous les classiques, Zelda 64, Ocarina of Time, des trucs comme ça, ils vont rajouter après.
Bah oui.
Donc, ils te promettent qu'ils vont rajouter après. Quand ils promettent ce genre de trucs, rappelez-vous des jeux Super Nintendo qu'ils ont rajoutés après. Hein, on va se calmer, c'est pas forcément des trucs intéressants. plus étonnant, en plus de du catalogue Nintendo 64, on va avoir aussi un catalogue de jeux Mega Drive. Hein, quand je dis on fait venir à la maison les anciens concurrents et ça va bien se passer.
C'est ça.
Donc si vous voulez jouer à Sonic ou Echo le Dauphin, il n'y a pas de problème.
Street of Rage 2,
ouais, ils ont montré plein de jeux. Voilà, donc une bibliothèque de jeux Nintendo 64 et Mega Drive pour un petit peu plus cher, mais on ne sait pas de combien. Et si vous voulez y jouer correctement, ne vous en faites pas, puisqu'ils vont également commercialiser une manette Nintendo 64 compatible avec la Switch et une manette de Mega Drive compatible avec la Switch.
Et ça, 50 euros chacune. Pour une vieille manette de Mega Drive, quoi.
Alors, elle est sans fil, hein.
Oui, elles sont sans fil, oui.
Elle est sans fil, donc... 50 euros.
Non, ça pue l'arnaque, hein, quand même. Je suis désolée, mais vraiment.
Je suis pas client.
Non.
On continue à te revendre des vieux trucs, hein, puisque le classique de Super Nintendo, ActRaiser, a été remasterisé. Ça s'appelle ActRaiser Renaissance, Reborn, Remaster.
Je sais pas.
Pas très heureux. Et c'est déjà disponible sur l'eShop, hein, c'est sorti surprise, et c'est donc un remaster de Actraiser. Actraiser qui était un jeu Super Nintendo assez intéressant, c'était un genre assez nouveau, mais ça l'est toujours, hein, on n'a pas vraiment... On fait pas vraiment des jeux dans le même style. C'est un jeu qui avait deux phases de jeu vraiment distinctes. Hein. Il y avait une phase action où tu incarnais un genre d'avatar d'un dieu qui allait tuer des monstres en 2D en vue de côté. Mm-hmm. Hein, donc c'était ce type de combat. Tu avais ton épée et tes sorts et tu te battais contre des monstres et des boss pour libérer les régions. Et une fois que les régions étaient libérées, tu passais en mode vue de dessus, très gestion stratégique où tu jouais un petit ange qui volait par-dessus les terres. Et tu pouvais créer tes villages, gérer les terres, en fait, faire venir des paysans pour qu'ils récoltent des trucs, gérer la météo, gérer les événements, les attaques de monstres et ce genre de choses. Et quand il y avait un problème sérieux, bah, tu te mettais au-dessus et tu descendais et tu passais sur la phase de jeu vu de côté, quoi.
D'accord.
Donc c'était assez cool, c'était vraiment un super jeu, Actraiser. Et donc il est ressorti.
Moi, ça me fait penser un peu à Ni no Kuni, hein.
Sur le style visuel, peut-être.
Non, sur le double truc, hein, où tu vas faire des trucs normaux, plus t'as une espèce
de... Ouais, t'avais la carte de monde. Ouais, mais c'est le...
Tu fais des trucs...
C'est un peu le style des jeux de rôle de l'époque, hein, mais c'était sympa. Après, je sais pas si je vais racheter le jeu.
Mais là aussi, il est à combien, le jeu ?
Bonne question. Alors... Parce que c'est un remaster, hein, c'est pas un remake. Actraiser sur l'eShop. Actraiser Renaissance, Nintendo.fr. Prix TTC, nouveauté, système de jeu, on s'en fout. Pas de prix. 30 euros.
Ah bon, ça va.
Bon, ça va, oui, voilà.
Enfin, on va dire pour Nintendo, ça va, quoi.
On est en fourchette haute, mais ça va. Alors, on reste sur le thème de repayer ce que tu as déjà. Konami a donc dévoilé pendant ce Nintendo Direct sa nouvelle collection de Castlevania, la Castlevania Advance Collection, avec tous les Castlevania de l'époque de la Game Boy Advance. Alors là, parfois ils font des remakes, parfois là, ils font des remasters, parfois ils font que dalle. Donc là, ils ont fait que dalle. Ils ont pris les jeux, ils les ont foutus dans la compile et démerde-toi avec les graphismes.
Comme ce qu'ils avaient fait pour la compile de Mario, je sais plus quoi là.
Ouais, mais c'était pas des jeux Game Boy, c'était des jeux Nintendo 64. Tu commençais à avoir de la 3D, des trucs comme ça. Voilà.
Ah là, non, c'est Game Boy, ok.
Voilà, c'est les jeux Game Boy. Alors il y a quoi? Les jeux inclus, c'est Castlevania Circle of the Moon, Castlevania Harmony of Dissonance, Aria of Sorrow et également Dracula X.
Mais après, de toute façon,
c'est-à-dire c'est trois super Castlevania et un très mauvais jeu.
Non mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un public pour les jeux comme ça rétro vraiment, quoi?
Sans doute, il y a sans doute un public, et surtout que là, voilà, on a 4 jeux pour 20 euros, c'est pas très cher.
Ouais, mais 4 jeux pour 20 euros, putain, c'est des jeux Game Boy, quoi.
Ouais.
Tu me les donnes gratuits, ça va, mais 20 euros, merci, quoi.
Voilà, donc c'est les mêmes avec les graphismes de la Game Boy de l'époque, ça pique un peu les yeux, mais bon, au moins, tu gardes le charme d'origine.
Mais parce que les graphismes de la Game Boy, qui était un petit écran, si jamais tu les fous sur ta télé avec la Switch, tu crois que ça fait pas exploser ton truc, hein?
Ah, ça fait exploser ta télé, ouais.
Non, mais je veux dire, tu crois pas qu'il y a un problème de...
Ah, il y a des pixels gros comme le poing, là, on est d'accord, mais...
Ouais.
Non, mais je suis d'accord, tu mets ça, tu mets tes graphismes Game Boy Advance sur ta grosse télé, ta dernière OLED, dernier cri 4K, ça fait des pixels, tu peux t'asseoir dessus, quoi.
Oui, donc c'est impinable, en fait.
C'est compliqué, ouais.
D'accord.
C'est compliqué,
parce
mais
qu'à
bon...
la limite, sur ta Switch, bon, on va dire à peu près ça va.
Ouais.
Et encore, c'est
ouais, voilà,
pas la même résolution.
Faut y jouer sur Switch et en portable, pourquoi pas, ça passe à peu près, mais c'est vrai que sur une grande télé. Parce que Castlevania Advance Collection, on en parle dans le cadre du Nintendo Direct, mais c'est également disponible sur PlayStation et sur PC.
Ah.
Donc, le même problème. Hein.
Pareil.
Voilà. Écoute, c'est le thème, hein, payer des vieux trucs 15 ans après. Tu te rappelles, il y a deux semaines, quand il y a eu le showcase PlayStation et qu'ils ont annoncé le remake de KOTOR.
Oui.
Et bah, si t'aimes pas les remakes, figure-toi que KOTOR, l'original, pas remaké du tout et même pas remasterisé, sort sur Switch le 11 novembre de cette année. Donc là, on parle bien du vieux KOTOR dégueulasse d'il y a 15 ans, sans aucune amélioration.
Ouais, c'est fou ça, c'est incroyable.
Et ouais, c'est incroyable. Alors quand t'as un truc comme ça, de temps en temps, pourquoi pas, mais là, quand tout le Nintendo Direct, c'est ça...
Oui, voilà, que t'es... Pff,
ouais, t'as l'impression vraiment que la Switch, c'est une console qui est un peu mal vieilli, là. On arrive bientôt à la cinquième année de la Switch. Je sais pas où on va.
Non, c'est...
Je sais pas où on va, et les politiques de prix de Nintendo sont un petit peu... sont un petit peu compliquées à justifier. Hein. Alors, il y a quand même des nouveautés.
C'est compliqué à justifier pour nous, mais tant que les gens achètent, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre eux ?
Exactement. Ouais, voilà, le truc, c'est qu'ils font des ventes, des ventes du futur, quoi. Ah, donc, ouais. tu peux rien dire. Ils font de l'argent, ça marche bien. Et tant mieux, ils ont un business qui fonctionne. Mm. Mais voilà. Après, ils ont quand même montré un petit peu les jeux qui arrivent l'année prochaine. Les gros jeux, les vrais jeux de Nintendo prévus pour 2022. Donc, on a des nouvelles images de Splatoon 3.
Bon, ça, Splatoon ça, c'est 3, pareil, ça,
exactement. Splatoon 3, c'est Splatoon 2, mais avec des nouveaux niveaux, une nouvelle arme. Ouais. Un peu fatigué. On a un nouveau Kirby.
Ah ouais, le Kirby The Last of Us.
Ouais, le Kirby The Last of Us, c'est trop drôle. Le trailer, avant que tu comprennes que c'est Kirby, ça te montre des ruines d'une ville où la végétation a repris le dessus. Alors ça te montre l'intérieur du centre commercial et tout, mais avec des graphismes colorés, Switch, machin, très Nintendo, tu vois. Donc ça fait vraiment une version... C'est The Last of Us repensé par Nintendo, et puis après t'as Kirby qui arrive. c'est trop marrant, ça a l'air très mignon. Kirby, voilà, c'est ça, c'est de la plateforme 3D, c'est pas très risqué, mais c'est toujours très mignon, ça marche bien, donc c'est plutôt cool. Et 4 ans après son annonce, on a enfin les premières images de Bayonetta 3.
Ouais.
Bayonetta 3, là aussi, c'est... Alors, c'est pas une mauvaise chose, forcément, mais c'est du Bayonetta. C'est un jeu d'action avec un personnage qui défonce tout, avec des combos, avec des effets et des coups spéciaux qui t'en mettent plein la vue, qui font exploser ton écran, il y a des dinosaures qui viennent se battre, il y a un avion qui passe, et voilà. Ça a l'air très cool. Non, mais c'est Bayonetta, quoi. Ça va dans tous les sens. C'est pour les amateurs de ce style de jeu, du style de Devil May Cry, de ce... Voilà. Ouais. Ce style de jeu d'action qui bouge beaucoup, qui est très impressionnant, qui est compliqué à maîtriser. C'est pas des combats qui sont simples, c'est très profond au niveau du système de combat, donc c'est très intéressant à jouer. Et ça va être cool, hein, il va sortir en 2022, donc 5 ans après son annonce.
Par contre, ils ont mis du temps à le faire.
Attendez que le jeu soit un petit peu avancé avant de les annoncer.
Ah oui, hein. Là, ils se sont dit, venez, on fait Bayonetta 3. Ah ouais, bonne idée.
Non, mais c'est, voilà, c'est quand ils ont annoncé la Switch, ils ont dit, et qu'on leur a demandé est-ce qu'il y a des jeux sur Switch, et ils ont répondu, ouais, bien sûr, il y a Bayonetta 3 et Metroid Prime 4.
C'est
complètement bidon, tu vois.
c'est trop ça.
Le mec, il a dit ça au hasard, et puis après, ils ont commencé à faire les jeux parce que le mec l'avait dit, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et 5 ans après, on n'a toujours rien vu. On n'a toujours pas une seule image de Metroid Prime. Alors oui, ils ont eu des problèmes de développement, mais annonce les jeux plus tard, quand les problèmes de développement sont réglés.
C'est ça.
C'est un peu pénible, c'est une console qui... La Switch, actuellement, c'est une console qui surfe sur des promesses et sur des vieux jeux remasterisés, vendus à prix d'or. Mm.
C'est un peu décevant.
C'est extrêmement décevant. Mm. Déception toujours avec l'annonce du cast du film Mario.
T'as pas parlé de Metroid Dread ? Ils ont montré.
Ouais, ils ont montré un trailer de Metroid. Ça, ça a l'air cool. J'aime bien Metroid. Je suis content qu'ils fassent du Metroid 2D. Je suis beaucoup plus excité par un Metroid 2D qu'un Metroid Prime.
Ben voilà. T'es content quand même.
Mais je comptais en parler parce qu'il y a de la news aussi sur.
Sur Metroid. T'ai gâché tes trucs encore.
Non, pas du tout. Mais c'est pas grave. On va faire dans cet ordre-là.
Ouais, donc le casting.
Non, et en plus, ouais, on disait que Nintendo, ils abusaient un petit peu sur Metroid Prime. Sur Metroid Dread, pardon, qui sort bientôt, le 8 octobre. Donc, Metroid Dread, c'est un jeu qui sort plein tarif.
70 ?
Ouais.
Oui. C'est normal, c'est un nouveau jeu.
Oui, oui, c'est un nouveau jeu. Il a l'air très complet, il a l'air très bien. On reste quand même sur les nouvelles habitudes de Nintendo, c'est-à-dire qu'en plus des 70, tu es prié de payer 30 euros de plus pour des amiibo.
Non mais sérieux, il faut qu'ils arrêtent avec ça.
Donc
putain,
les amiibo qui vont te donner,
un
pack de vie,
jeu.
Un pack de missiles. Hein, voilà. Donc si tu veux bien remplir ta barre de vie jusqu'au bout, t'as intérêt à avoir l'amiibo.
C'est pas beau, ça, vraiment. Hein.
C'est pas, bah, surtout que, figure-toi que les amiibo Metroid concernés seront en retard en Europe. Hein, donc ça a été annoncé cette semaine suite à des problèmes d'approvisionnement.
Donc même si tu veux les acheter, tu peux pas.
Même si tu peux les acheter, ils ne sortent que le 5 novembre, donc un mois après le jeu, c'est-à-dire quand tu l'auras complètement fini. Donc ton pack de vie, c'est, l'intérêt est plutôt limité. Donc même ça, ils le merdent. C'est... Bon après... C'est, tu vois, les problèmes de livraison, les problèmes de fournisseurs, des trucs comme ça, c'est des genres de choses. Ça arrive, c'est imprévisible. Hein, c'est pas... Ah non, pardon, excuse-moi, il s'était passé exactement la même chose pour l'amiibo de Zelda le mois dernier. Tu sais, l'amiibo qui te permettait de fast travel, bah, ouais. Lui aussi, il avait été repoussé de un mois en magasin. Donc, c'est, la situation est ridicule. Donc, Nintendo, je sais pas ce que vous foutez.
Ouais, Nintendo, sortez-vous les doigts du cul, ça va pas du tout, là.
Donc... Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, donc Nintendo et l'alcoolisme, ça continue, puisque le casting de Mario, du film Mario a été révélé. Ils vont faire un film d'animation Mario, parce qu'ils ont vu que Sonic en faisait un, ils ont été très jaloux.
C'est vrai, c'est exactement ça.
Donc ils vont en faire un aussi. Ouais, nous aussi. Ça sort, la date de sortie a été annoncée, ça sera le 21 décembre pour les États-Unis, sans doute dans ces eaux-là aussi en Europe et au Japon.
Mais 2022
2022. 2022.
Oui, mais attends,
ouais.
Le 21 décembre, on a le 2021 non,
T'as raison. Mm. C'est, je saute les étapes. Mm. Et ils ont annoncé le casting, un casting très, très aléatoire en fait, finalement. Ils ont pris des gens au hasard pour faire les voix des personnages.
Bah, ils ont pris des gens, des acteurs super connus et super à la mode pour faire leur truc, et puis ouais, c'est tout.
Ouais,
quoi.
Ouais, c'est plein d'acteurs à la mode, plein de noms qui font très joli sur une affiche. Ça, il n'y a aucun problème. Après, est-ce que ça correspond au personnage?
Mais c'est ridicule.
c'est... Alors, il y en a qui correspondent plus que d'autres, tu vois. Il y en a qui vont. Il y en a, je sais que ça va marcher. Il y en a un qui va pas marcher et c'est le plus
Mario.
Important, c'est Mario qui va être joué par Chris Pratt. Alors c'est un film d'animation, hein, c'est que les voix.
C'est que les voix, ouais.
Et on va même pas rentrer dans le débat hollywoodien actuel qui est...
Il y a un vrai débat
Il y a un vrai débat
qui est quoi, vas-y.
À Hollywood qui est, voilà, quand tu as un personnage qui est d'une certaine ethnicité, tu vas chercher des acteurs de cette ethnicité. Hein, si tu veux des personnages qui sont noirs américains ou des trucs comme ça, tu vas chercher des voix de ce truc-là. Quand tu as un personnage qui est asiatique dans Ghost in the Shell, tu vas pas prendre
Scarlett Johansson
pour faire son rôle.
Ça,
ce genre
c'est
de choses. Tu vois, c'est un personnage qui existe.
Ça, c'est vrai.
Donc, prendre Chris Pratt pour faire un plombier italien, ça fait chier pas mal d'acteurs italiens. Ça fait également chier.
Mais parce qu'il a un putain d'accent italien, Mario.
Mais complètement.
Donc Chris Pratt, il va faire.
Ça fait également chier Charles Martinet, qui fait la voix de Mario.
Mais oui,
depuis
pourquoi ils ont pas pris
ans.
Lui, quoi.
Et qui est parfait pour faire ce truc-là. Non, c'est Chris Pratt. C'est...
Oui, c'est juste pour mettre un gros nom.
Je veux dire, c'est... Non, on aurait pu mettre Charles Martinet et avoir un Mario parfait. C'est non, il nous faut un gardien de la galaxie pour faire Mario. Il n'y a que ça qui fait crédit. Je ne comprends pas. J'aime beaucoup Chris Pratt. Il faut que ça soit clair. Hein. Chris Pratt, si tu nous écoutes, plein de bisous, plein de câlins. J'adore ce que tu fais.
Mais pas là, quoi.
Mais pas là.
Ça n'a aucun sens.
Pas là. C'est pas possible. Chris Pratt. Le reste du casting... Pff, Chris Pratt, putain.
Non, mais le reste aussi, je veux dire...
Alors,
c'est débile.
Un après l'autre, pour Peach, pourquoi pas. Pour Peach, ils ont pris Anya Taylor-Joy, actrice un petit peu à la mode, elle était dans le jeu de la dame.
Oui, mais attends, à part qu'il y a une photo où elle ressemble à Peach, excuse-moi, elle va faire quoi ? Oh, Mario, qu'est-ce que tu fais ? Non, en fait,
bah,
c'est débile.
C'est à ça qu'on lui demande, Peach, hein, c'est se faire kidnapper.
Mais oui, mais c'est une super actrice.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir cette fille pour faire Peach ? Elle dit rien, Peach.
Écoute, là, elle va dire des trucs. Hein.
Mais on n'a pas envie qu'elle dise des trucs, c'est ça le problème.
Charlie Day dans le rôle de Luigi. Charlie Day, vous le connaissez si vous regardez Always Sunny in Philadelphia. Pour Bowser, c'est Jack Black qui va faire Bowser. Bon, alors, Jack Black, il est fort pour faire des voix, quoi. Après, je sais pas le ton que ça va avoir, leur film, tu vois. C'est des personnages qui parlent pas.
Et c'est ça, en
Mario,
fait,
c'est pas...
sait pas. Ça parle pas, normalement, dans Mario. Ils disent « Wouhou !» et puis voilà, c'est tout, quoi.
Ouais, voilà. Est-ce qu'ils vont demander à Chris Pratt de faire « Wouhou !»
Moi, déjà, je comprends pas qu'on fasse un film Mario, comme je comprenais pas qu'on fasse un film Sonic, quoi. C'est... Qu'est-ce que ça va donner, ce truc ?
Keegan-Michael Key dans le rôle de Toad.
Ça, c'est... C'est ridicule.
C'est ridicule, mais pourquoi pas, tu vois. Lui aussi, c'est un mec qui est fort pour faire des voix. C'est...
Oui, il mais va putain, faire un... mais c'est ridicule.
C'est ridicule, mais je sais qu'il va faire du bon travail, tu vois.
Ah non, mais bien sûr.
Je sais qu'il va faire du bon travail, Jack Black, je sais qu'il va faire du bon travail.
Bien sûr.
Seth Rogen dans le rôle de Donkey Kong... Bah Donkey Kong sera défoncé, hein, c'est pas grave.
Oui, non, ouais.
Ça passe très bien, finalement. Mais... et Charles Martinet, qui va faire des apparitions surprises, selon le truc. Bon, très
non,
étrange,
c'est,
Mario.
C'est ridicule. En fait, là, on dirait vraiment que c'est déjà, comme tu dis, c'est on veut faire un film Mario parce que les autres, ils ont fait un film Sonic.
Ouais.
Et on veut prendre les acteurs
les plus en vogue.
Les plus en vogue, les plus qui font péter le truc pour dire, regardez, nous, on prend des acteurs de fous parce qu'on est des fous et on a plein de fric et on est trop fort et machin.
Ouais, voilà. Ouais, non, c'est ça.
Mais c'est ridicule, vraiment, c'est ridicule.
Nintendo. Merci Nintendo, c'est la fin de notre bloc où on s'énerve contre Nintendo. On va partir sur notre bloc où on s'énerve contre Activision Blizzard.
Encore, mais... Ah oui, c'est vrai, Diablo 2.
Ah, Diablo, j'ai même pas mis Diablo 2 dans le truc, j'ai tellement d'énervement. Alors Diablo 2...
Attends, il y a encore plus d'énervement que Diablo 2 ?
Ouais, ouais, je veux dire, c'est tellement n'importe quoi que j'avais même pas mis Diablo 2 dans la liste. Diablo 2...
Je croyais que c'était Diablo 2 le problème.
Diablo 2, Remastered... Remake, Renaissance,
Rediablo,
Diablo 2 Rebrûle, sorti cette semaine sur PC Battle.net et sur console Xbox et PlayStation. La sortie, c'est pas super bien passé, hein, bien entendu, les serveurs ne fonctionnent pas, ils sont complètement en vrac. Fort heureusement, Diablo 2, contrairement à Diablo 3, n'est pas un jeu complètement en ligne. Hein. Vous pouvez passer en mode offline pour jouer sans les serveurs. Ça ne change rien puisque le jeu
ça marche plante, pas non plus.
Le jeu plante quand même, surtout sur la version console. Alors, j'ai des retours. Alors, admettons, on va admettre que c'est des retours anecdotiques, mais je connais des gens personnellement qui n'arrivent pas à jouer à Diablo 2 sur console parce que le jeu plante toutes les 5 minutes. Et...
C'est pas forcément anecdotique, hein.
Ouais, non, 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 mais voilà, ça a l'air plutôt
Ils
répandu.
Sont tombés sur le mauvais mec pour l'anecdote, là. Hein
c'est... Le mec qui fait le test de Diablo 2 pour IGN n'arrive pas à jouer à Diablo 2 parce que le jeu plante sur PS5 toutes les 5 minutes et un plantage sur 5, tu perds tes personnages. Donc c'est compliqué de progresser.
Je pense qu'ils vont pas avoir une bonne note. Hein.
Ça va être compliqué. Non, mais il y en a d'autres pour qui ça marche. Donc ça a l'air aléatoire, c'est assez bizarre.
Comme toujours.
Voilà, donc le lancement se passe pas très bien. Ça se passe pas très bien non plus dans les bureaux d'Activision Blizzard.
Encore.
Tu sais qu'ils sont leur procès actuellement contre l'État de Californie. Alors c'était déjà assez fou à l'époque quand l'État de Californie, le plus grand État des États-Unis, se mêle un petit peu des affaires privées d'Activision Blizzard. Mm. C'est pas commun. Tu seras ravi d'apprendre que cette affaire a pris un niveau fédéral cette semaine. Puisque il y a désormais une implication de la SEC, la Securities and Exchange Commission. Pour résumer, c'est la police des sous.
La police des sous ?
Oui.
Attends, mais c'était un truc de harcèlement sexuel et de traitement des employés. Maintenant, il
voilà.
y a les
ouais,
sous.
Ouais, ouais, ouais. Maintenant, il y a le fisc qui s'en mêle. Et également, le EOC, Equal Employment Opportunity Commission. Donc ça, c'est pour les conditions de travail.
Ouais.
Alors la SEC, l'enquête de la SEC, c'est surtout pour voir si Activision Blizzard aurait dû avertir les actionnaires du procès. Donc ça a été une question. Hein,
comment ça, ils n'ont pas averti les actionnaires du procès ?
Non, les actionnaires l'ont appris en même temps que le reste du public, alors que c'était une enquête qui durait depuis 3 ans. Une enquête à laquelle Blizzard collaborait, donc une enquête qui était connue par Blizzard.
Non, mais attends, mais n'importe quoi. De cette oui, non, mais là, c'est pas possible. Hein.
Donc, est-ce qu'ils avaient le droit de faire ça ? C'est la question. Le EOC, eux, quant à eux, ils font leur enquête sur les plaintes, sur le harcèlement, et essayent de voir comment est-ce qu'on pourrait compenser les victimes avec des compensations qui pourraient chiffrer à plusieurs millions, évidemment. Voilà. Alors. Heureusement pour Activision Blizzard, ils ont des bons avocats. Autant pour moi, puisque Claire Hart, qui est le chief legal officer, donc le chef des avocats chez Blizzard, elle s'est barrée. elle a démissionné. Hein, elle a dit moi, j'en peux plus de vos conneries, je me casse. Elle l'a pas dit comme ça, mais j'ai traduit. Donc ça va pas très bien. La SEC a convoqué officiellement Bobby Kotick.
Ça te plaît, ça.
Hein, Bobby Kotick est désormais impliqué personnellement. Il est convoqué par la commission, il est prié de témoigner.
Et il est prié de rendre les sous.
D'autres employés haut placés sont également convoqués. Ils sont également priés de fournir les comptes rendus des réunions et ce genre de choses.
Mais les réunions dans la suite Cosby ou...
Voilà, il faut voir. Donc, c'est... Hein, ça va pas mieux,
non,
chez Activision Blizzard.
C'est bien, ça va les calmer tous, hein.
Heureusement, Activision Blizzard a quand même des jeux en cours de développement, comme Overwatch 2, développement qui a priori se passe bien. Ah non, non plus. Producteur exécutif d'Overwatch, Chaco Sonny, quitte Blizzard. Donc il rejoint la longue liste de gens qui ont quitté Blizzard ces dernières semaines.
Après là, franchement, à mon avis, les rats quittent le navire, hein, on est d'accord. Hein.
Les rats quittent le navire sans non plus jeter la pierre à ce pauvre Chaco Sonny qui, lui, semble pas concerné par les plaintes de harcèlement et ce genre de choses. Il n'est pas cité dans les enquêtes et même d'après les employés qui sont toujours en place, il était plutôt apprécié dans l'équipe et c'est une grosse perte pour l'équipe.
De toute façon, après, il y a deux effets sur ça. T'as les mecs qui ont peur des répercussions qui se cassent et puis t'as les mecs bien qui se disent mais j'en peux plus de cette boîte de merde, c'est pas possible.
Ouais.
Donc voilà.
Overwatch 2 est sur la fin du développement. Hein, je veux dire que le fait que le producteur exécutif se casse à ce stade-là, ça aura a priori peu d'impact sur le développement d'Overwatch 2. Mmh. Overwatch 2 qui avance bien dans son développement, ils ont montré là ce week-end, c'était la finale de la Ligue d'Overwatch. Mmh. Ils en ont profité pour montrer l'avancement d'Overwatch 2. Donc, j'ai pas regardé tout le truc, hein, mais j'ai regardé des résumés, et le truc que j'en retire, c'est que maintenant, Bastion a une casquette. Donc, si vous vous demandez pourquoi vous repayez un jeu 60 euros, la réponse est là, hein, Bastion a une casquette, c'est important.
Ok.
Non, ça se passe pas très bien chez Activision Blizzard. Mais c'est pas beau de se moquer de gens qui sont en mauvaise posture, donc on va arrêter de parler d'Activision Blizzard pour aujourd'hui. On va parler Quantic Dream.
Mais Quantic Dream, ouais.
Quantic Dream qui, eux, sortent de leur procès également.
Oui, voilà, c'est pareil. Ouais.
Pour harcèlement de leur personnel. ça, c'est une affaire qui a un peu plus de 2 ans maintenant. Rappelle-toi, c'était la suite des enquêtes conjointes de Mediapart, du Monde et de Canard PC. Ils avaient publié le résultat de leur enquête maintenant il y a 2 ans. Suite à ça, les patrons de Quantic Dream, David Cage et Guillaume de Fondomière, avaient eux-mêmes fait un procès à Mediapart et au Monde pour diffamation.
D'accord, ils manquent pas d'air les connards.
Ils manquent pas d'air les connards, ouais, exactement. C'est ce qu'on avait dit à l'époque. Hein. On a le résultat de ces procès. Hein, c'est terminé. Alors dans le cas de Mediapart, ils ont été rebootés sur un
déboutés.
Rebootés,
c'est les jeux vidéo.
Débouté. Rien à voir. Surtout, ils ont été déboutés sur tout ce qu'ils disaient. En particulier, il y avait plusieurs passages de l'article de Mediapart qui étaient ciblés par ce procès. En particulier, les passages qui expliquaient que M. de Fondomière avait été renvoyé du studio, qu'il avait reçu une prime de départ de 100 000 euros et que malgré ça, il avait continué à être employé par le studio juste après. Donc, ça se fait pas trop. Donc, ils avaient accusé Mediapart de diffamation. Le juge a jugé que Mediapart avait suffisamment de preuves pour présenter ces informations. Donc, pas de diffamation. Ouais. Également, sur les procédures de renvoi de certains employés, là aussi, ça a été débouté. Et sur le fait que Quantic Dream a malencontreusement oublié de déclarer... certains de ses employés. Donc c'est
Oups. Pardon, on l'avait pas vu, désolé.
Procès pour diffamation contre Le Monde également. Là, par contre, David Cage et Guillaume de Fondomière ont eu raison sur ce procès.
Ah bon ?
Oui, mais pour la simple et bonne raison que Le Monde n'a pas pu prouver ce qu'ils ont écrit sans révéler leurs sources. Donc Le Monde a préféré protéger leurs sources et se prendre le procès dans la gueule plutôt que de révéler leurs sources.
La classe.
Ouais, c'est comme ça que ça marche, les journalistes. Et
voilà. Vrai.
Le Monde, c'est quand même Le Monde, ça rigole pas. Donc ouais,
c'est bien.
Ambiance bof chez Quantic Dream, mais là aussi, on va même approche que pour Blizzard, il reste les jeux vidéo. Qu'est-ce qu'ils font Quantic Dream ? Quantic Dream, ils sont libérés de leur contrat d'exclusivité avec Sony, hein, contrat qui devait durer 3 jeux. Et donc les 3 jeux, on les a eus. Hein, c'était Heavy Rain, c'était Beyond Two Souls, et c'était Detroit, sous-titre à la con, Become Human, un truc comme ça.
Detroit sous-titre.
Ces 3 jeux sont sortis, donc maintenant Quantic Dream est libre comme l'air de faire les jeux qu'il veut avec qui il veut. Et visiblement, les jeux qu'il veut avec qui il veut, c'est des jeux avec Disney et c'est des jeux Star Wars.
Donc,
ça c'est... Alors c'est une rumeur, hein, c'est une rumeur.
Mais attends, mais ces connards qui se sont pris un procès pour
c'est une rumeur surprenante.
Qui se sont fait... Parce que, attends, tu m'as dit autre chose sur Quantic Dream.
Ouais, mais ça, j'ai pas suffisamment de sources pour en parler publiquement. Donc,
tu crois quoi, qu'ils vont nous faire un procès ?
Non, mais j'ai pas envie de faire des fausses rumeurs pour rien. Mais ça, par contre, ça, c'est une rumeur qui est solide. Hein. C'est un journaliste français, Gotoz, qui a annoncé ça dans un stream. Alors, Gotoz, c'est pas quelqu'un qui est connu pour faire de la breaking news et pour sortir des rumeurs de derrière la fagot. Il n'est pas forcément crédible de ce côté-là, mais il n'est pas non plus connu pour dire n'importe quoi. C'est un ancien game culte, il est plutôt sérieux dans ce qu'il fait, et s'il en parle, c'est qu'il doit avoir des informations. Donc voilà, un jeu Star Wars par Quantic Dream, je ne sais pas à quoi ça peut ressembler, mais ça serait leur projet actuel. Ça te laisse sans voix, ma pauvre Asa.
Mais tout le monde peut faire des jeux Star Wars ?
Bah si payent...
Il suffit d'aller taper à la porte et dire moi je veux faire un jeu Star
Wars.
Ouais,
faut appeler Disney, faut leur faire un chèque. Hein. Et visiblement, Star Wars, qui eux aussi sont libérés de leur contrat d'exclusivité avec Electronic Arts et sont maintenant libres de filer la licence à qui ils veulent, visiblement ils se lâchent. Hein.
Oui, mais ils sont pas très regardants sur qui la file, hein, quand même, les licences.
Ouais, alors, pas très regardants, je sais pas. Hein, peut-être que le pitch de Quantic est intéressant. Ça, on va voir, on va attendre. Déjà, on va attendre que le jeu soit confirmé, hein, et on va attendre de voir à quoi il ressemble. Après, je me demande à quoi va ressembler le jeu, tu vois. Après, si c'est pour faire le même style de jeu, du jeu narratif, avec des choix, avec des trucs comme ça, avec des graphismes plutôt jolis... là, j'ai envie de dire, ça va dépendre surtout de qui écrit le jeu.
C'est les connards habituels qui écrivent le jeu, t'as pas envie d'avoir un jeu comme ça ?
Bah, si c'est les gens de chez Quantic Dream qui écrivent le scénario, si c'est les mêmes qui ont écrit le scénario de Detroit qui écrivent le scénario de ça, j'ai pas envie. Si c'est les gens de chez Star Wars, si c'est les mêmes qui ont écrit les derniers films qui vont écrire ça, j'ai pas envie non plus.
Oui, mais c'est pas ça déjà, c'est impossible.
Je sais pas, appelez-moi, je vous fais un scénario. Hein, une
oui, histoire. Voilà, appelez-nous quoi.
Je fais un spin-off sur un droïde cuisinier, ça va être trop bien.
C'est grave.
Qui utilise la force pour faire cuire ses trucs.
Ils vont te dire non, pas un droïde cuisinier, un droïde pute.
voilà, donc Quantic Dream. Donc voilà, si c'est ce style de jeu narratif, pourquoi pas. S'il commence à partir dans des jeux d'action ou des trucs comme ça, bah, Quantic Dream, je suis pas sûr qu'il sache faire ce genre de choses. Mais bon, à voir, dès qu'on aura plus d'infos, on vous en parle, bien évidemment. Voilà pour le segment Quantic Dream. Ça y est, est-ce qu'on s'est suffisamment énervé ? Je regarde. On va s'énerver encore un peu.
Ah.
Non, Microsoft, ils ont une semaine calme. Hein, on s'énerve pas
Microsoft,
contre Microsoft.
Sont gentils, en général.
Ouais, cette semaine, ça va.
C'est pas les pires, quoi.
C'est pas les pires. Non, ils ont annoncé cette semaine, et ça a surpris pas mal de fans, mais finalement c'est normal. Tu sais le reboot de Perfect Dark qui a été teasé déjà, qui est développé par le nouveau studio créé par Microsoft, The Initiative. Le jeu va être co-développé par Crystal Dynamics, le développeur en particulier de Tomb Raider.
Ouais.
Et donc voilà, ça va être un co-développement sur ce jeu.
Et du coup, c'est quoi qui choque les gens ?
Ce qui choque les gens, c'est que « Oh, mais comment ça se fait ? Ils sont pas capables de faire leur jeu tout seuls. » Non, ils sont pas capables de faire leur jeu tout seuls. Les gros jeux de nos jours, les studios ne les font jamais tout seuls.
Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Qu'est-ce que ça peut leur foutre aux gens qui sait qu'il les fait les jeux tant qu'ils sortent ?
Quand Ubisoft fait des Assassin's Creed, il y a 50 studios Ubisoft qui travaillent dessus. Les plus gros jeux, il y a de la sous-traitance tout le temps. Les plus gros jeux de Nintendo sont toujours sous-traité. On oublie souvent que le plus gros du développement de jeux comme Smash Bros Ultimate a été fait par Bandai Namco. C'est normal, mais en tout cas c'est un partenariat qu'ils ont annoncé cette semaine et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que les gens de chez Crystal Dynamics ils sont plutôt talentueux dans leur réalisation. À part quelques fausses notes comme les Avengers, mais on leur pardonne. S'ils sont drivés par Microsoft et les initiatives derrière, peut-être que ça va bien se passer. J'aimerais bien voir des images de Perfect Dark, j'aimerais bien savoir à quoi ça va ressembler, en tout cas, j'ai hâte. Persona. Mm-hmm. Est-ce que je peux m'énerver ?
Encore ?
Oui, mais je suis de mauvais poil.
Bon, vas-y, qu'est-ce qu'il y a ?
Persona. Tu sais que c'est l'anniversaire, les 25 ans de Persona, ils ont promis des tonnes d'annonces. Oui. Voilà. Et la première annonce était prévue pour le mois de septembre.
Ouais.
Elle est tombée, ce 20 septembre, première annonce. Donc, c'est une grande annonce de rien.
Ah.
Donc, voilà, je suis pas fâché, mais bon, si vous attendiez ça avec impatience, calmez-vous un petit peu. Donc, la première annonce des 25 ans de Persona, c'est donc un concert Persona. Qui aura lieu le 21 novembre au Tokyo Opera City de Shinjuku. Si vous habitez loin, c'est pas de chance parce qu'il sera pas streamé. Y a également toutes les séries d'animation et les films d'animation Persona, de Persona, Trinity Soul, Persona 3, Persona 4 Animation, Persona 4 Golden, Persona 5, seront disponibles sur les services de streaming, au Japon uniquement. Des réductions et des promos sur tous les jeux de la série Persona, au Japon uniquement. Donc ouais, pour nous, en fait, il n'y a rien, quoi.
Bah ouais, mais bon...
Non, mais oui, c'est normal, mais bon...
C'est normal, non, c'est pas normal, mais c'est des annonces importantes pour les Japonais.
Ouais, c'est sûr.
Pour nous, c'est un peu naze, mais...
Non, mais moi, je vais noter cette date du 21 novembre pour le concert, parce que souvent, ils annoncent des jeux pendant les concerts. Persona 5 Royal a été annoncé pendant le concert. Souvent, pendant l'entracte, ils passent des trailers et ils annoncent des jeux. Ça peut être intéressant. Allez, quelques petites news rapides pour finir. Respawn, un développeur de Respawn a répondu lors d'une interview à la question « Et alors Titanfall, est-ce qu'on va en avoir un nouveau ?» Et le développeur a répondu « Ouh là là, je compterai pas dessus. On a actuellement absolument rien en développement pour Titanfall, donc c'est vraiment pas pour tout de suite. » Le lendemain...
le lendemain, il s'est fait virer, déjà.
le lendemain, Respawn a tweeté « Oulala, contrairement à ce qui a été rapporté cette semaine, Titanfall est vraiment au cœur de notre ADN et nous n'avons actuellement rien à annoncer, mais qui sait ce que le futur nous réserve ?» Donc, voilà. Avant de répondre n'importe quoi en interview, vérifie avec ton service de presse si tu as le droit de...
Oui, voilà, c'est...
Donc, voilà, quelqu'un s'est fait visiblement engueuler. Le remaster de Life is Strange a une nouvelle date de sortie. Hein. Il avait été repoussé à début 2022. Ouais. Ce début 2022, c'est en fait le 1er février. Donc c'est bien. Ça va. J'accepte. Donc c'est Life is Strange Remastered. C'est un remastered développé par Deck Nine du premier Life is Strange 1 et de Life is Strange Before the Storm. Mm. C'est vendu individuellement ou alors en cadeau si vous avez l'édition spéciale du dernier Life is Strange True Colors.
Oui.
Donc voilà, ça a l'air sympa. Si vous avez jamais fait le premier de Life is Strange, c'est le moment de le découvrir.
Après, c'est un petit peu dommage qu'il soit pas sorti avec le nouveau jeu.
Ouais, qu'il sorte tout en même temps. Ouais, ça c'est sûr.
Un peu con, mais...
C'est sûr. Des nouvelles du procès Apple contre Epic pour Fortnite. Hein. Apple, ils sont fâchés. Hein.
Oui.
Apple, ils sont fâchés puisque bon, Epic est en train de perdre tous ses arguments au procès.
D'accord.
Donc c'est un procès qui est très très long. Et donc, ils ont dit, ouais, mais finalement, on est d'accord avec les systèmes d'Apple, on veut revenir sur l'App Store, on veut remettre Fortnite sur l'App Store, et puis on va suivre les règles et tout.
Apple, ils ont Apple dit non.
Non, non. alors, absolument pas.
Non, non, il ne fallait pas nous faire chier.
Voilà, donc parce qu'il y a une décision de justice qui a dit que Apple est absolument dans, a absolument le droit de décider que Fortnite ne serait pas sur l'App Store, et Apple a dit non, Fortnite continuera à ne pas être disponible sur, sur l'App Store jusqu'à ce que le procès et toutes les possibilités d'appel soient, soient passées. Donc ça, c'est à partir de maintenant, c'est encore au moins 5 ans.
Ah, c'est vraiment pour les faire chier, quoi.
Donc voilà, c'est vraiment... C'est...
C'était... Après, de toute façon, c'est Epic qui a lancé ce procès, non ?
Ouais, ouais, c'est ça. C'est...
Mais ils sont trop cons, eux. Hein. Ils sont vraiment trop cons. C'est, on a trop de fric, on sait plus quoi en faire. Venez, on fait les débiles, quoi.
C'est ça. C'est très drôle.
Mais c'est bien fait pour leur gueule.
Non, le seul truc que Epic a obtenu au nom de tous les développeurs d'applications dans le monde, c'est que... il a été décidé par la justice que Apple n'avait pas le droit d'empêcher un développeur de proposer un moyen de paiement alternatif pour les applications.
Oui, donc ça,
donc ça, c'est,
ça a eu un effet positif.
Ça a eu un effet
autres,
positif,
en fait.
Parce que voilà, on n'est plus forcé de passer par les modes de paiement de l'App Store pour payer des trucs. Donc après, il y a
C'est pour ça qu'ils sont énervés. Alors.
Après, il y a déjà des applications qui font ça. Je ne sais pas comment ils font. Il y a déjà des applications qui font ça depuis longtemps. Hein. Mmh. Quand je me commande du KFC sur Uber Eats, je ne paye pas à Apple, je paye par PayPal. Donc je ne sais pas comment font les autres applications, mais je crois qu'il y a d'autres applications qui avaient déjà compris qu'on pouvait le faire. Quoi. C'est... Donc je ne comprends pas tout. Mais,
je ne sais pas.
Voilà. Écoute, petite série de news Netflix pour terminer cet épisode. Il y a eu un événement Netflix last weekend où ils ont balancé plein de bandes annonces. L'événement s'appelait Netflix To Doom. J'aimerais bien travailler chez Netflix, ça a l'air facile.
C'est clair.
On a eu première bande annonce qui était plutôt jolie de Arcane, la série animée dans l'univers de League of Legends. Ça a l'air plutôt cool, c'est en cel shading, mais plutôt classe. L'univers a l'air intéressant. Je connais pas du tout l'univers de League of Legends, je connais pas trop les personnages. Hein. Là, on va suivre visiblement les deux des personnages, deux des champions les plus populaires du jeu, Jinx et Vi. C'est deux sœurs, apparemment. Et voilà, ça a l'air joli. La bande-annonce est cool. La série, donc c'est une série d'animation. Qui se divise en trois actes. Le premier acte sortira le 7 novembre, le deuxième le 13 novembre et le troisième le 20 novembre. Donc une semaine d'écart pour chaque acte, et chaque acte est divisé en trois épisodes. Donc 9 épisodes total pour la série. On a également les premières images de la saison 2 de The Witcher. Mm. Hein, ce fameux... Ah, tu vois, on parle un peu de CD Projekt, ils sont pas loin. Comme...
Ils sont pas loin.
Ils sont jamais très loin. Saison 2 de The Witcher, ça arrive le 9 décembre. Voilà, c'est The Witcher, hein, c'est
mais
Geralt.
C'est des projets qui ne prennent pas de sous pour la série.
Indirectement.
Oui, parce que ça fait augmenter les ventes du jeu.
Exactement. CD Projekt n'a absolument aucune implication dans la série Netflix de The Witcher. Mais The Witcher ne s'est jamais aussi bien vendu qu'en 2019, l'année de la série. Il s'est plus vendu The Witcher 3 en 2019 que l'année de sa sortie.
Ouais.
Donc ouais, ils sont quand même
ils
contents.
En profitent, ouais.
Ils sont quand même plutôt contents. De toute façon, il est démontré que CD Projekt s'en sort beaucoup mieux quand ils font rien.
C'est vrai.
Voilà. Et la nouveauté, l'annonce aussi, c'est qu'il y aura une saison 3 à The Witcher. Donc si vous aimez bien Henry Cavill et son cheval, c'est une bonne
et
nouvelle.
Le cheval, il devient quoi ?
Roach ?
Ouais, on le voit pas trop dans la série. Hein.
Ouais, il coûte cher.
Il coûte plus cher qu'Henri Cavill, le cheval.
Le cachet du cheval est nettement plus élevé que le cachet d'Henri Cavill. Henri Cavill, on dit, il vient faire le Witcher, il vient gratuitement sur les mains, quoi. C'est, il est tellement content. Le cheval, par contre, c'est le cheval, c'est le dresseur, c'est les syndicats, c'est le machin.
C'est vrai, voilà, c'est le truc de protection des animaux.
Protection des animaux, c'est très 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 compliqué, alors. Henri Cavill, par contre, ça va tout seul. Allez, un petit agenda des sorties pour voir ce qui nous attend la semaine prochaine. mal de sorties cette semaine encore. Hein. On est vraiment au cœur de l'automne. Alors, on a des gros trucs, on a des petits trucs. On a Ghost Runner, qui est un roguelike plutôt sympa, qui sort dans sa version nouvelle génération PS5 et Series X le 28 septembre. Hein. Il était déjà disponible sur PC, sur Switch même, et sur les anciennes consoles. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va surtout noter New World, le MMO de Amazon. Ça y est, il sort.
Ça y est. Ça sort.
New World.
Mais quand, la semaine prochaine ?
Mais genre demain.
Mais putain, mais qu'est-ce qu'on va faire, Bibou ?
Rien. On va rien faire, on va regarder hein,
on
de
va
loin.
On va continuer à jouer à Genshin.
Alors New World sort sur PC demain, 28 septembre. Hein. C'est donc un MMO à l'ancienne de chez Amazon. Enfin, à l'ancienne, pas trop, parce que c'est un jeu que vous payez plein tarif, mais il n'y a pas d'abonnement.
Ouais, voilà comment hein. Ça se passe.
Il n'y a pas, pas d'abonnement.
Combien coûte le jeu, du coup Je pose toujours des questions pièges.
Ouais, mais attends, c'est les bonnes questions.
C'est les bonnes questions.
Parce qu'il y a des microtransactions à l'intérieur du jeu. Hein,
évidemment, forcément.
Mais le ticket d'entrée est à 40 euros, donc pas forcément super cher.
Ah, il doit y avoir un paquet de microtransactions dans le jeu, alors.
Ouais, mais je ne les connais pas en détail, mais on avait fait la news il y a quelques semaines quand elles avaient été annoncées. Parce qu'ils avaient annoncé les microtransactions. Et les fans ont dit oui, les microtransactions, là, c'est un petit peu abusé parce que ça donne quand même de sacrés avantages de gameplay. Hein, c'est pas du tout cosmétique.
Ah
hein,
oui,
c'est...
oui.
Et Amazon avait répondu, on a écouté attentivement les critiques des fans sur les microtransactions. Mûre réflexion. Et en fait, on va faire ce qu'on avait prévu, quoi.
Hein. c'est normal. C'est un jeu énorme, il faut bien rentabiliser.
Non, absolument, t'as raison, il faut bien rentabiliser, mais on va attendre que le jeu soit sorti. Parce que là, sans avoir joué au jeu, j'ai du mal à juger du coût des microtransactions et de leur portée, de ce que ça va faire. Mais
parce qu'après, par exemple, sur un jeu comme Genshin, les microtransactions, elles vont te donner un avantage de gameplay, hein, c'est sûr.
Ah, ouais, largement, ouais. Ouais.
Ben
non,
voilà.
C'est même la base du truc. Hein, c'est,
ben oui.
C'est clairement le jeu où plus tu payes, plus t'es fort. Hein.
Ben oui, c'est logique.
C'est,
je veux dire, au bout d'un moment.
C'est comme ça. Donc, New World sort sur PC. Demain, 28 septembre, le DLC de Outer Wilds, Echoes of the Eye, sort sur à peu près toutes les plateformes où il y a du Outer Wilds. Donc ça, c'est... Alors, Outer Wilds, je le dis à chaque fois, mais c'est un jeu qui a l'air fantastique, mais j'arrive pas à rentrer dedans. C'est malheureux, hein. Mais en tout cas, les fans de Outer Wilds attendent ce DLC avec impatience. Vu la structure du jeu, je sais pas comment ils vont réussir à faire rentrer du contenu supplémentaire dans cette mécanique très millimétrée. Mais bon, c'est des gens qui sont talentueux, donc j'ai tout à fait confiance. La version PC de Neo The World Ends With You arrive également demain 28 septembre sur l'Epic Game Store. Il était sorti sur PlayStation au printemps. Voilà, si vous attendez la version PC, elle arrive. La Switch, toujours 3 ans de retard avec une version de Darksiders 3 qui sort sur Switch.
Putain, plus de 3 ans de retard là. Hein.
C'est à peu près ça. Darksiders 3, oui c'est ça. Ouais non, effectivement, t'as raison. Ça c'est le 30 septembre, Darksiders 3 sur Switch. 30 septembre également, le premier DLC, le seul DLC d'ailleurs, il me semble, de Life is Strange True Colors. C'est l'épisode bonus Wavelengths. Ça se passe avant les événements de True Colors et ça suit les aventures de Steph, la disquaire.
Ouais, hein, qui est le personnage qui était dans.
Qui est un personnage voilà qui apparaissait déjà dans Before the Storm et on va voir un petit peu ce qui. Je crois qu'on suit. C'est un épisode qui va la suivre son histoire sur une année de sa vie.
D'accord.
Donc ça va être sympa. Et sortie la plus intéressante de ce mois-ci, hein, 1er octobre, c'est vendredi. Sur PC, PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, FIFA 2022.
Ah oui.
Donc si vous voulez jouer au foot, FIFA 2022. Alors FIFA 2022, qu'est-ce que c'est ? C'est FIFA 2021, mais plus cher. C'est à peu près ça.
Et avec... Non, mais il doit y avoir des trucs pour les gens qui
s'intéressent. Il y a sûrement des trucs, mais ça ne m'intéresse absolument pas. Donc ciao. Azin, il est temps de d'expliquer aux gens ce qu'il faut regarder à la télé ou pas. Ou pas, ou...
Bah oui, mais c'est toi, là.
C'est moi, qu'est-ce que j'ai fait, moi?
Moi, j'ai mal à la gorge.
Toi, t'as mal à... Ah, et c'est comme ça. Donc, Azad, bon, je prends possession du truc. Ben TV, cette semaine, avec une série Netflix, production qui nous vient de Corée, Squid Game.
Squid Game, ouais.
Squid Game, c'est un petit peu la série à la mode de Netflix actuellement. Et c'est cool, c'est même plutôt bien.
Ouais,
c'est plutôt bien. C'est très bien. Alors attention, c'est ultra violent, hein, si vous êtes un petit peu sensible.
Oui, c'est violent.
Allez,
c'est
voir, très, très violent. Allez voir plutôt Pas de patrouille. Mais les autres, Squid Game, c'est cool.
Alors, oui, non, si vous avez l'habitude de regarder Pas de patrouille, il ne faut pas regarder Squid Game. Hein.
Regardez un autre truc entre les deux pour faire transition. Squid Game, c'est coréen, ça rappelle beaucoup des productions japonaises genre Alice in Borderlands.
C'était coréen, Alice in Borderlands.
Mais ça se passait à Tokyo.
C'est pas coréen, Alice in Borderlands.
Ça se passait à Shibuya.
Mais c'est pas coréen, Alice in Borderlands.
Alice in Borderlands, c'était japonais.
C'est japonais.
Oui, je suis à peu près sûr, mais maintenant je vais vérifier parce que sinon il se fait ben, il a encore dit des conneries dans son podcast de merde.
Non, mais c'est moi. Non, mais attends, c'est moi. Hein, je sais pas. Hein.
Alice in Borderlands, thriller, série japonaise, science-fiction, suspense, thriller. Ouais, non, c'est japonais.
Bon,
c'est absolument japonais. Là, c'est coréen. C'est un groupe de personnes qui sont un petit peu comme Alice in Borderlands. C'est un groupe de personnes qui sont plus ou moins contre leur gré ou pas, attirées dans un jeu un petit peu tordu. C'est un grand jeu avec des plusieurs centaines de participants, avec une prime de plusieurs millions qu'on leur fait miroiter. Et ils se rendent vite compte que c'est un jeu extrêmement dangereux où il est possible de mourir un petit peu n'importe quand. Et souvent c'est souvent très graphique hein, quand les gens meurent. Oui. Et donc voilà. Et c'est intéressant, c'est malin. En fait, si tu veux, les participants, ils les font jouer à des jeux enfantins en fait. Hein, la première épreuve, celle qui monte dans la bande annonce, donc on va pas trop spoiler, pas plus que en tout cas.
Ouais.
Première épreuve, ça va être du 1, 2, 3 soleil. Ouais. 1, 2, 3 soleil, donc tu avances quand ils regardent pas et tu dois t'arrêter à la fin de la comptine. Et si jamais tu bouges, là par contre ils se font sniper. C'est rigolo, c'est bien fait, il y a du suspense, le jeu est bien construit, les personnages sont intéressants, ils sont variés. C'est une série coréenne avec quelques questions de société qui sont abordées hein, en trame de fond, mais tu as parmi les personnages t'as un immigrant pakistanais qui a du mal à trouver sa place dans la société coréenne, qui est visiblement assez fermée aux étrangers. Tu as également un des personnages qui est une réfugiée de Corée du Nord. Donc ça aussi, ça c'est des thèmes qui sont un petit peu abordés. Donc c'est intéressant, c'est fun, hein, c'est très très fun. Il y a un suspense qui est vraiment bien dosé.
En fait, il y a des épisodes qui sont assez exceptionnels quand même.
Il y a deux épisodes qui se démarquent du lot, qui vont tout de suite sur la liste des meilleurs épisodes qu'on ait vus année. Mais dans son ensemble, la série se tient bien. Elle se casse un tout petit peu la gueule sur les dernières minutes. Où tu sens qu'ils savaient pas trop
est-ce qu'on va avoir une saison 2 ou pas, voilà, c'est ça.
Et on va essayer de faire le coup de l'explication de dernière minute qui te fait remettre en question, qui te fait remettre tout ce que t'as vu en perspective, mais ça marche pas trop en fait. Mais bon, on va pas en tenir rigueur à la série.
Non, ça reste
très très fun, très très sympa, et c'est très recommandé.
Ouais.
Hein, vraiment, c'est original. Voilà, une production coréenne, c'est quand même très différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Ça change. C'est pas le même ton que, et c'est même très différent si vous regardez un petit peu des séries japonaises. C'est encore différent.
C'est
de
encore
ça.
Différent.
C'est vraiment intéressant. Donc, Squid Game, c'est sur Netflix. Il y a une saison de 9 épisodes et c'est très très cool. Aza, on va clôturer cet épisode. Je vois que tu es en train de souffrir. Tu t'es à moitié étouffé. Tu es en train de mourir là.
Ouais, non, ça va.
Ça va aller.
Oui,
on rassure nos auditeurs.
Non, tout va bien.
Il y aura un épisode 202 de la Belle des Gamers.
Non, tout va bien.
Il y aura un épisode 202. Il sera la semaine prochaine, lundi. On reprend un rythme normal. C'est-à-dire que l'épisode arrivera le matin au réveil. À moins que vous vous réveillez avant 4 heures. Alors là, je ne peux rien pour vous. Ouais. À la semaine prochaine, tout le monde.
Salut.